Un sale coup politique. Louis Mapou s'est exprimé pour la première fois depuis que le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tombé. Les élus du Congrès en séance publique cet après-midi, boulevard Vauban, une séance qui a débuté aux alentours de 16h30 avec 2h30 de retard. Un homme de 34 ans mis en examen et placé en détention provisoire le 24 décembre dernier à la tribu de Pahama à Pointe-d'Imier. Il avait tué son père d'un coup de sabre d'abattis. Une soirée de la Saint-Sylvestre sous couvre-feu, un arrêté pris ce matin par le haut-commissaire pour les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et du Mont-d'Or. Mathias Oineux de l'Union calédonienne, élu président de la province des îles, 13 voix sur 14 se sont portées sur sa candidature ce matin lors de l'Assemblée. La France, via la Nouvelle-Calédonie, continue d'apporter son aide au Vanuatu. 10 jours après le séisme qui a fait 12 morts, la Croix-Rouge continue d'intervenir sur place. Et puis les sports, l'événement de cette fin de semaine en Nouvelle-Calédonie, c'est le BNC Tennis Open au Wentworth. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et c'est donc un sale coup politique. Pour la première fois depuis que le gouvernement est tombé, son président a pris la parole. Une longue explication de texte de Louis Mapou pour dénoncer la décision de Calédonie Ensemble de faire chuter le gouvernement et son timing, Jean-François Baudin.
Ce n'était pas encore l'heure du bilan de l'action du 17e gouvernement qui est resté en place 3 ans et demi, mais bien une intervention sur les raisons qui ont conduit à sa chute. Point par point, Louis Mapou a dénoncé les arguments mis en avant par Calédonie Ensemble pour justifier cette décision. Mais d'abord, il s'est interrogé sur le timing de l'annonce de la chute du gouvernement qu'il considère, vous l'avez dit Léo, comme un sale coup politique.
C'est un sale coup politique qui est porté à notre pays, comme si on avait besoin de ça. Chacun appréciera que la décision a été prise la veille de Noël, comme si le tempo ne valait rien en ces temps difficiles. Mais visiblement, il y a des ressentis de la part de certains responsables politiques qui font très peu cas de ce que peut psychologiquement ressentir la population dans des moments aussi importants que pour la Noël et la fin d'année.
Tout l'argumentaire de Louis Mapou, qui a commencé par remercier les membres du gouvernement, l'administration et les collaborateurs, c'est que justement ces équipes étaient pleinement mobilisées par les réponses à apporter à la crise générée par les émeutes et que le travail, selon lui, portait ses fruits, ce que certains ont eu du mal à accepter.
Nous, le gouvernement, on était au travail. On est en responsabilité. Et je peux comprendre que les difficultés que la démarche qui a été proposée par Calédonie Ensemble et Philippe Gomez au Congrès n'ont pas rencontré le succès qu'ils souhaitaient. Mais de là à dire que c'est la faute du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y a là un raccourci que je n'accepte pas. Les desiderata des uns et des autres relèvent plus de nostalgie par rapport à un passé qui a amené les uns et les autres à avoir une action déterminante de cette
année. Louis Mapou est convaincu que ceux qui sont responsables de la situation actuelle craignaient en fait de voir réussir ce premier gouvernement à majorité indépendantiste. Et il fait remonter le début des tensions lors du renouvellement du Congrès. C'est là que les choses ont changé, notamment dans les relations entre le Congrès et le gouvernement.
Depuis le changement de bureau au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a une autre façon de travailler qui s'est installée. Et 9 élus, 3 de l'éveil océanien et 6 de Calédonie Ensemble, avec la caution, je dis bien, la caution de certains responsables indépendantistes, ont fini par faire croire que c'était suffisant pour dicter la vie des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Ce changement serait donc la cause des tensions entre le gouvernement et le Congrès, mais il y en a une autre, selon Louis Mapou, c'est la manière de se dédouaner de ce qui s'est passé le 13 mai.
Calédonie Ensemble et ceux qui sont alliés à lui considèrent que parce que c'est la faute de l'État ce qui est arrivé, il faut qu'il paye. Est-ce que l'État est le seul responsable? Le député du Noyer était dans le groupe de Renaissance au moment où ça se passe. Ils ont soutenu le projet de loi constitutionnelle. Nous-mêmes, les indépendantistes, nous avons notre part de responsabilité, quoi qu'on veuille ou quoi qu'on en dise. Parce que peut-être que si nous avions engagé des négociations beaucoup plus franchement que ce qu'on a fait entre le référendum de 2021 et la présentation d'un projet de loi, on n'en serait pas là.
L'un des reproches faits au gouvernement et à son président, c'est d'avoir été demandé et d'avoir obtenu de l'argent de la part de l'État. mais sous forme de prêts et non de subventions. Il n'y avait pas d'autre solution et Louis Mapou en veut d'ailleurs pour preuve que les deux missions transpartisanes qui ont été à Paris n'ont rien obtenu de plus.
Quand Denis Ensemble qui est promoteur de la chute du gouvernement, mais avec qui on sent bien qu'il y a d'autres alliés comme l'éveil océanien, dit qu'il espère toujours avoir l'accord du gouvernement central pour une subvention de 120 milliards. Ce serait la transformation du prêt garanti par le gouvernement central, ni le président de la République, que la mission n'a jamais rencontré, ni le premier ministre Michel Barnier, que la mission n'a jamais rencontré, ni les présidents des deux chambres que j'ai reçus ici, ne m'ont laissé entendre à un moment que dans le contexte des finances de la nation et du contexte politique en France, la demande d'une subvention de 500 milliards sur 5 ans était raisonnable, voire sensée.
Louis Mapou conteste donc toutes les raisons invoquées par Calédonie Ensemble pour justifier de la chute du gouvernement, estimant qu'il était au travail de façon concertée pour faire face à la crise et que ce travail commençait à porter ses fruits. Mais la chute du gouvernement aura des conséquences, estime-t-il, la première d'entre elles étant que la réforme de la TGC n'a pas été adoptée et qu'elle pourrait aboutir à ce que la France ne verse pas les 27 milliards d'aides prévues dans les prochains mois. Un gâchis, selon Louis Mapou, qui souligne que le sentiment qu'il anime, ce n'est ni le ressentiment, ni l'amertume.
Ah non, de la colère de constater qu'on puisse encore faire ça.
Louis Mapou en colère contre la décision de Calédonie Ensemble, auquel il prête le soutien de l'éveil océanien. Je me demande comment on peut discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie avec de tels agissements, a-t-il conclu.
L'actualité institutionnelle et les élus du Congrès qui sont de nouveau réunis aujourd'hui avec une nouvelle séance pour le moins curieuse. Lionel Sabot, vous êtes en direct du boulevard Vauban.
Oui, et si la Nouvelle-Calédonie n'était pas dans la situation que l'on connaît aujourd'hui après les émeutes du mois de mai, ce qui s'est passé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie en début d'après-midi aurait presque pu prêter à sourire. Oui, mais eu égard à la situation économique du territoire, c'est un bien triste et inquiétant spectacle auquel nous avons assisté ces dernières heures, boulevard Vauban. Les élus étaient convoqués pour siéger à 14h, mais ce n'est qu'à 16h25, avec donc près de 2h30 de retard, que la séance a été officiellement ouverte. Une séance qui s'est ouverte sans aucun élu indépendantiste, qui ont donc décidé de jouer à la carte de la chaise vide après la chute du 17e gouvernement. Une absence des élus indépendantistes qui a eu des conséquences sur l'ordre du jour de cette séance. En effet, le premier texte qui était à l'ordre du jour était un projet de loi du pays, portant diverses mesures de soutien aux entreprises et aux salariés après les émeutes du mois de mai. Un texte présenté par le gouvernement et dont le rapporteur spécial était Caroline Machereau-Régnier, mais en l'absence du rapporteur spécial d'un texte, il n'est pas possible de l'examiner en séance. Au final, ce texte étant supprimé de l'ordre du jour, c'est donc avec 2h30 de retard que les élus présents, les élus non indépendantistes, ont débuté l'examen du deuxième texte inscrit à l'ordre du jour, une proposition de loi du pays portant diverses mesures fiscales de soutien aux entreprises. Écoutez Gilles Brial pour l'intergroupe Les Loyalistes.
La non-participation des indépendantistes fait qu'on était limite par rapport au quorum. Donc il y a une discussion autour de ça et nous on a conditionné notre présence à la fusion de deux lois de pays en fait. Le gouvernement avait rédigé une loi de pays avec des avancées pour les entreprises qui ont été victimes des exactions et pour leurs salariés. Calédonie Ensemble a fait une contre-proposition et finalement dans chacune des deux lois de pays, si le gouvernement était plus complète, il y avait des côtés positifs. Donc en commission on était intervenu pour dire que dans le cadre de l'intérêt général, il fallait une fusion de ces deux lois de pays. Malheureusement on n'a pas été entendu. Et donc aujourd'hui, on n'en a examiné qu'une. Donc on a conditionné notre participation à la fusion de ces deux lois de pays. L'intérêt, c'est vraiment celle des entreprises et de leurs salariés aujourd'hui. On doit se focaliser là-dessus et pas sur des guerres politiciennes. Donc on a pu obtenir ça, on a mis un peu de temps, on a pu obtenir. Et du coup, c'est pour ça que on travaille à cette fusion et on apporte les amendements pour obtenir le meilleur de chacune des deux lois en une seule loi.
Une proposition de loi pour laquelle plusieurs dizaines d'amendements, vous l'avez entendu, et sous-amendements ont été déposés. Les élus examinent donc en ce moment même ce texte qui prévoit notamment une exonération d'impôts sur toutes les aides publiques perçues par les entreprises dans le cadre des émeutes, mais aussi sur les indemnités d'assurance perçues à la suite des émeutes. Un texte très technique que les élus devraient adopter en tout début de soirée. En direct du boulevard Vauban, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Lionel Sabot, RRB.
Et une séance qui devrait continuer tard dans la soirée, effectivement. Revenons maintenant sur la séance quelque peu agitée du Congrès hier, Jean-François. La séance lors de laquelle le texte modifiant la TGC a été reporté. Les loyalistes et le Rassemblement ont écrit au Premier ministre François Bayrou.
Dans ce courrier, les élus rappellent, et je cite, « Le 11 décembre dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie votait la DM6 qui prévoyait d'habiliter le président du gouvernement à signer une convention d'avance avec l'État. » Convention qui assurait une aide de l'État de 27 milliards de francs pour la Calédonie et ses collectivités. Les élus poursuivent en expliquant au chef du gouvernement que depuis le 11 décembre, le Congrès a voté le jour de carence dans la fonction publique territoriale et adopté le plan d'augmentation de la CCS de manière conforme aux termes de la Convention, écrivent les signataires. Les loyalistes et le Rassemblement reviennent ensuite sur la séance d'hier au Congrès. Alors que nous examinions la loi du pays portant réforme de la TGC, l'ensemble des formations politiques indépendantistes a décidé de ne plus siéger suite à la chute du 17e gouvernement. C'est écrivent les 9 signataires dans ce courrier qui lancent un appel solennel au Premier ministre. Nous vous sollicitons solennellement pour que l'État accorde à la Nouvelle-Calédonie et ses habitants l'aide financière indispensable à leur sauvetage. Les élus poursuivent ainsi, et je cite, « À défaut, l'État n'aura pas d'autre choix que de mettre la grande majorité des collectivités calédoniennes sous tutelle. C'est une sollicitation de la plus grande urgence que nous adressons aujourd'hui », écrivent encore Sonia Baquès, Philippe Blaise, Gilles Brial, Isabelle Champmoreau, Christopher Gigès, Nicolas Metzdorf, Alcide Ponga, Virginie Ruffnac et Françoise Suvé.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier d'abord. 43% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent, dans le contexte actuel, qu'il était opportun de faire tomber le gouvernement. Ils sont 57% à penser que ce n'était pas opportun. Voici désormais notre question du jour. Faut-il sanctionner plus durement les élus qui tiennent des propos outranciers dans leurs assemblées respectives ? Si vous pensez qu'il faut les sanctionner plus durement, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. La province des Îles, qui a désormais un nouveau président. Il s'agit de Mathias Waneux. Il était le seul candidat ce matin lors de la séance qui avait pour objectif de renouveler le bureau de l'Assemblée. Après, on le rappelle que Jacques Lallier a été condamné à une peine d'inéligibilité de 2 ans. Ce matin, 13 voix sur 14 se sont donc portées sur la candidature de Mathias Waneux.
C'est une satisfaction parce que rien n'a été plié jusqu'à ce matin. On s'est vu ce matin, on s'était vu avec tous les groupes et nous, on a passé des choses avec les camarades du Palika, c'est le partenaire habituel. Après, on va se réunir cet après-midi avec les camarades pour qu'on puisse fixer vraiment la ligne de conduite du groupe à prendre. On va prioriser les urgences, c'est un peu ce que j'avais dit, hein, et puis d'essayer de remettre sur les rails, parce que là, on est sur un déficit. Hein. Donc, on va travailler sur Adobe et puis faire des priorités et puis faire en sorte que... L'objectif des 8 mois, là, c'est au moins d'assainir les comptes publics de la province. Ça, c'est une priorité, mais en même temps avec tous les dettes que portent la santé et l'enseignement.
Mathias Waneux avait mené la fronde contre Jacques Lallier lors de l'examen du précédent budget. Pour autant, il déclare poursuivre le travail entamé par son prédécesseur, même s'il critique la gouvernance que Jacques Lallier avait mise en place.
On sera dans les mêmes thématiques, hein, sur les piliers que l'ancien président avait posés, mais on va prioriser les choses. Et puis on va remettre l'animation par rapport aux sujets qui sont transversaux, par rapport à l'animation des présidences de commission. La gouvernance, elle va changer. Elle va changer, on ne va plus opérer à la verticale. Hein. On va opérer avec une grande transparence possible par rapport aux sujets qui sont transversaux.
Neko Nepeoun, qui a fait dernièrement son retour à l'Assemblée de la province des Îles, est élu premier vice-président, poste qui revient donc à l'UC. Le Palika prend la deuxième vice-présidence avec Wally Waecha. Charles Yewene du groupe UC est le troisième vice-président. C'est donc l'ensemble de l'exécutif qui a été renouvelé. Le vote du budget primitif est prévu pour le 30 janvier. Bientôt 18h, on marque une première pause dans ce journal. On reviendra dans quelques instants sur le dernier arrêté du Haut Commissariat qui concerne la soirée de la Saint-Sylvestre.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info au soir, Léo Fichou.
Et une Saint-Sylvestre qui se terminera plus tôt que prévu. Le haut-commissaire a publié un communiqué dans lequel il annonce qu'un couvre-feu sera en vigueur dans la nuit du 31 au 1er janvier, mais également du 1er au 2 janvier de 1h à 6h. Cela ne concerne que les communes de Nouméa, de Dumbéa, du Mont-d'Or et de Païta. Il s'agit, explique le Haut-Commissariat, d'observer une vigilance particulière en raison du contexte que connaît le territoire depuis plusieurs mois et également du bilan de l'insécurité routière ces dernières semaines. Tout contrevenant à ces mesures devra payer 16 000 francs. Et une annonce qui impacte forcément les bars et les boîtes de nuit. Ils doivent s'adapter dans l'urgence alors que la nouvelle année arrive dans 6 jours à peine. Charlotte Coulson.
C'est un nouveau coup dur pour les professionnels de la nuit. Leurs plans sont chamboulés à moins d'une semaine de la fin d'année. Après plus de 7 mois passé sous couvre-feu, ils avaient prévu la totale pour cette Saint-Sylvestre. Malheureusement, ils vont devoir s'adapter, comme l'explique Quentin, le responsable du MV Lounge à la Baie des Citrons.
Oui, on vient de l'apprendre ce matin, donc c'est vrai que par rapport à la soirée du Nouvel An, ça va être très compliqué de pouvoir fêter ça comme chaque année. On prévoit un spectacle avec la troupe de Torafi qui vient sur la plage pour un spectacle de feu et après le feu d'artifice à minuit. Donc là, avec cette annonce du couvre-feu à 1h, malheureusement, la fête va être entièrement écourtée. Je pense qu'on va devoir faire un peu comme avec le couvre-feu ces dernières semaines, arrêter le service 1 heure avant et s'organiser du mieux qu'on peut pour nettoyer et s'en aller et que tout le monde rentre chez lui avant 1 heure. Ça va être compliqué. Ça nous impacte énormément et c'est vraiment dommage de devoir payer pour quelque chose qu'on n'a pas fait et qui n'est pas de notre ressort.
Et chez d'autres professionnels du monde nocturne, c'est l'incertitude qui prime. Comment se réorganiser dans un timing aussi court et sans savoir précisément les conditions de circulation sur la voie publique? Thierry Frontier est responsable de la Barca, un établissement qui appartient au même groupe que la Cocotte, une boîte de nuit de Nouméa.
Alors, une incertitude complète, on n'a pas encore les mesures de circulation qui sont importantes sur la baie des Citrons, qui peuvent gêner beaucoup de personnes pour venir. On verra le monde qui va circuler et venir. Habituellement, on a beaucoup de monde qui circule et souhaite la bonne année un peu partout. Sur la Cocotte, ils ont décalé les horaires puisque l'autorisation était prévue jusqu'à 4h du matin au départ. Donc avec un DJ, avec tout, donc obligatoirement décaler tout ce qui s'ensuit. Souhaiter la bonne année à minuit et puis dire au revoir dans la foulée, quoi. Ça va être ça. Un nouveau coup dur, ouais. Je pense que si des choses avaient été faites avant, on n'aurait pas ce coup dur maintenant.
Et bien sûr, finir la soirée à 1h au lieu de 4h, c'est aussi un gros manque à gagner pour les bars et les boîtes de nuit. 3h de recettes en moins le soir du Nouvel An. Et puis c'est aussi, comme l'explique Tom Huette, le responsable de la gestion des Trois Brasseurs, moins d'affluence pour la soirée.
Le 31, oui, est une soirée assez importante dans l'année, puisque c'est l'affluence, c'est là où généralement on observe un certain attrait à cet événement de la part des consommateurs et des clients. C'est sûr, ça va vous impacter un petit peu au niveau de l'affluence et l'attrait que les personnes vont avoir à sortir éventuellement. Maintenant, nous, on sera quand même prêts pour accueillir et fêter le 31 comme il se doit, on s'adaptera.
Et malgré tout, les établissements de nuit maintiennent tous leur programmation, qui finiront donc un peu plus tôt. Et nous le disions tout à l'heure, le couvre-feu sera donc appliqué de 1h à 6h du matin, le 1er et le 2 janvier dans les communes du Grand Nouméa.
Une information judiciaire ouverte par le parquet pour homicide volontaire sur ascendant. Le 24 décembre dernier, un homme de 34 ans avait tué son père âgé de 62 ans. C'était à la tribu de Pama à Pointe-d'Imier, Jean-François.
Et dans un communiqué envoyé à la mi-journée, Yves Dupin revient sur les faits. Le procureur de la République explique que le fils a tué son père d'un coup de sabre d'abattu au visage après une altercation familiale. Au cours de la garde à vue, l'auteur présumé a reconnu le geste de violence, mais il a expliqué que depuis plusieurs semaines, son père, alcoolisé, insistait pour lui faire boire de l'alcool alors qu'il savait pertinemment qu'il n'en consommait pas. L'homme de 34 ans a ajouté qu'avant de porter le coup de sabre d'abattu, il s'est remémoré le comportement violent de son père à l'égard de sa mère, décédée l'an dernier. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des faits a été soumis à un contrôle d'alcoolémie qui s'est avéré négatif. Il a été placé en examen et en détention provisoire.
Et à noter qu'en métropole, une Calédonienne de 32 ans est morte noyée le jour de Noël. Elle a perdu la vie dans un accident de la route dans la commune de Vauvert, c'est dans le Gard. Son corps a été découvert à l'intérieur de sa voiture immergée dans un canal. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer la cause de sa sortie de route. Notez qu'une cagnotte litchi a été ouverte afin de permettre à ses proches de rapatrier son corps sur le caillou. L'agence rurale suspend ses aides à l'agriculture et à la pêche. Une annonce qui a été faite par communiqué. Le président de l'agence rurale a également adressé hier un courrier à ses partenaires pour expliquer la situation. Il met en avant la situation donc budgétaire de l'agence. Et face aux difficultés de cette année, la Nouvelle-Calédonie n'a versé jusque-là qu'un milliard sur les 3,6 milliards de taxes qui auraient dû être affectées à l'agence rurale conformément au budget voté en début d'année. En clair, il s'agit de la taxe sur les produits alimentaires, la TSPA et la TCA, la taxe sur les contrats d'assurance pour indemniser les calamités agricoles. Une situation qui a considérablement affecté le fonds de roulement de l'agence rurale que préside Victor Tutugoro.
La Nouvelle-Calédonie n'ayant versé qu'un milliard, nous avons dû fonctionner sur le réserve de l'agence rurale. Fin d'année 2024, la Nouvelle-Calédonie n'a toujours pas versé les 2,6 milliards que nous attendions. Il a versé 1 milliard, mais il n'a pas versé le complément, les 2,6 milliards. Nous sommes donc fin 2024 et devant les incertitudes du budget 2025. On ne sait toujours pas aujourd'hui quelles seront les recettes 2025. Et pour ne pas mettre en péril les opérations en cours 2024, mais en même temps la réserve pour le fonctionnement de l'agence rurale, nous avons décidé donc, à partir du 1er janvier 2025, de ne plus payer les nouvelles opérations en 2025.
Victor Tutugoro assure mettre tout en œuvre pour rétablir le fonctionnement de l'agence dans les meilleurs délais et dit avoir conscience de l'impact sur les exploitations. En attendant, Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, estime que les conséquences de cette décision sont grandes.
L'impact est multiple parce que c'est vrai qu'une partie des revenus des agriculteurs provient des dispositifs de l'agence rurale et aussi le maintien de certaines filières qui sont comme la filière porcine par exemple ou la filière bovine ou d'autres encore dont l'équilibre est basé sur ces versements d'aide. Donc on a quand même de gros soucis à se faire pour les semaines, les mois et les années à venir. Ce qui nous perturbe le plus, c'est le fait que ce secteur d'activité, comme les autres, l'économie de manière générale, ne fait pas partie des plans de mesures et de relance actuellement des finances publiques. On considère que le choix qui est fait par les collectivités de maintenir les coûts de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie sans faire d'efforts est dangereux parce que c'est l'économie qui en pâtit, c'est l'économie qui crée l'emploi, c'est l'économie qui crée la valeur pour le pays et l'agriculture, la pêche, c'est l'alimentation des Calédoniens. Donc pour nous, ces 3 milliards qui sont enlevés à l'agriculture et à la pêche, on trouve que c'est très très dangereux.
La Chambre d'agriculture et de la pêche avait demandé un rendez-vous au Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour évoquer les difficultés des filières liées à l'agriculture et à la pêche. Cette réunion pourrait avoir lieu en janvier. Envolons-nous désormais pour le Vanuatu. Voilà 10 jours qu'un violent séisme a touché l'archipel et la France est toujours mobilisée pour aider les sinistrés au Vanuatu. Donc Charlotte.
12 personnes tuées, des centaines de blessés et des milliers de sinistrés. Voilà le bilan de cette secousse de magnitude 7.3 sur l'échelle de Richter qui s'est produit le 17 décembre dernier près de Port Vila. Dès les premières heures, le Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie s'est coordonné pour un appui technique et opérationnel via les FANC, les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Un soutien opéré également au travers de la plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge, la PIROPS. Plusieurs axes d'intervention ont été définis pour mieux répondre aux besoins. Le premier étant la distribution de kits d'urgence pour les familles sinistrées, explique Ivan Grayel, le représentant régional de la PIROPS.
Il y a des jerrycans, il y a des kits d'hygiène, des kits pour avoir des abris temporaires quand les personnes dorment dehors dans les premiers temps, et aussi des lampes solaires. Ça, c'est la première partie des activités qui se font en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Vanuatu pour la distribution aux personnes les plus vulnérables. Et dans un deuxième temps, et ce qui fait aussi la force de la PIROPS ici dans la région, c'est l'envoi d'unités de traitement de potabilisation qui sont des unités de traitement mobiles. On a envoyé 2 unités et on a travaillé conjointement avec la direction de la sécurité civile et de gestion des risques du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, la DSCGR, qui a mis à disposition 1 unité et aussi des personnes formées à l'utilisation de ces équipements. Donc 2 unités de traitement et 8 personnes sur le terrain depuis samedi.
Et au total, 4 250 personnes ont pu bénéficier d'un accès à l'eau et 1 500 personnes, soit 300 familles, ont ont été destinataires de dons d'urgence. Les besoins sont réévalués chaque jour par les équipes de la Pyrops qui seront sur place au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine.
À 18h10, on marque une dernière pause dans ce journal avant de développer toute l'actualité sportive.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, et c'est du sport, Léo Fichou.
Et oui, les sports, et on ouvre notre traditionnel agenda du week-end avec l'événement sur le territoire. Je parle bien évidemment de tennis, le BNC Open qui démarre ce week-end, Jean-François Baudin.
Et les joueurs arrivent petit à petit à Nouméa, ils seront tous là pour les premiers matchs dimanche. Avant cela, le tirage au sort du tableau de simple et de double aura lieu demain soir à 18h au Méridien. Parmi les joueurs présents cette année, on retrouvera Adrian Manarino, 66e joueur mondial et triple vainqueur du tournoi, mais aussi Benoît Paire ou encore les Calédoniens Maxime Chazal et le tout jeune Ereman Akourt, 17 ans seulement.
On reste dans la région Pacifique avec de la voile. Nombreux sont ceux qui franchiront la ligne d'arrivée de la Sydney Hobart ce week-end, déjà cette nuit et puis d'ici dimanche, Jean-François.
Oui, malgré les drames survenus la nuit dernière, puisque deux marins sont morts après avoir été frappés par la baume de leur bateau. Et bien malgré cela, la course entre l'Australie et la Tasmanie continue. Les premiers équipages devraient arriver dans la nuit. L'arrivée des derniers est prévue pour mardi matin. Cette nuit, c'est possiblement l'Oconnect qui devrait franchir la ligne en premier.
Et on reste en mer, le Vendée Globe qui continue. Dernière ligne droite pour les hommes de tête.
Toujours en tête de la flotte dans l'Atlantique Sud maintenant, Johan Richaume sur Paprec-Arkéa possède une petite poignée de 1000 nautiques d'avance sur Charlie Dalin. À bord de Massif Santé Prévoyance, les deux skippers continuent d'être au coude à coude et sont lancés à pleine vitesse vers Rio. Sébastien Simon sur groupe Dubreuil complète le podium. Il est tout de même à plus de 600 000 nautiques de la tête et navigue actuellement au large des îles Falkland.
On parle football maintenant. Pas de Ligue 1 ce week-end, mais ça joue dans les autres championnats européens.
Et notamment en Angleterre. Demain matin, Arsenal recevra Ipswich à 7h15. En cas de victoire, les Gunners se reprendraient la deuxième place de la Première Ligue. Dans la nuit de dimanche à lundi, Manchester City ira à Leicester et Liverpool défiera West Ham. Du côté de l'Italie, dimanche matin, l'Inter Milan jouera à Cagliari et la Lazio de Rome recevra l'Atalanta. Dans la nuit de dimanche à lundi, il y aura un choc entre l'AS Milan et l'AS Roma. La Juve accueillera la Fiorentina et Naples jouera contre Venise. Enfin en Allemagne, comme en Espagne et en France donc, les championnats ne reprendront qu'au mois de janvier.
Et du rugby tout de même en métropole, la 13e journée de top 14 avec un duel de mal classé pour démarrer.
Oui, dans la nuit de demain à dimanche, la section paloise qui est 13e au classement recevra Vannes qui est dernier. Ensuite, l'Aviron Bayonnais accueillera le Castres Olympique, le MHR ira à Clermont, l'UBB premier sera opposé à Toulon, troisième. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Racing 92 affrontera le Loup, le Stade Rochelais ira chez les Catalans de l'USAP et le duel des stadistes en clôture lundi matin, Stade Toulousain, Stade Français.
On parle de basket, un mot de NBA.
Pour suivre notamment Victor Wembanyama, auteur de 42 points et 18 rebonds hier contre les Knicks de New York. Demain à 11h, les Spurs affronteront les Nets de Brooklyn.
Et puis on termine avec les sports d'hiver, les femmes en Autriche et les hommes en Italie.
Oui, géant et slalom pour les femmes à Semmering avec 9 Françaises engagées. Descente et super G pour les hommes, ce sera Bormio avec 10 Français au départ.
Merci beaucoup Jean-François Baudin pour toutes ces précisions sportives et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, les nuages bas deviendront plus nombreux, en particulier sur le nord-est, la pointe sud et au Loyauté, où de faibles averses seront possibles. Le vent s'orientera au secteur sud-est, souvent proche de 10 nœuds, mollissant en fin de nuit sur l'ouest entre 5 et 10 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 16 et 24 degrés. Demain matin, les éclaircies prédomineront, même si le soleil sera parfois contrarié par des passages nuageux circulant sur le sud du territoire ainsi que sur le nord de la côte est où des averses résiduelles seront encore possibles. Le vent de sud-est soufflera autour de 10 nœuds.